Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. 15 personnes en garde à vue et un ministre de l'Intérieur qui veut fermer différentes structures, d'une mosquée à une ONG en passant par une association. Voici la réponse judiciaire et politique à l'assassinat terroriste il y a 4 jours du professeur Samuel Paty. Dans ce journal, nous ferons un point sur l'enquête. Nous entendrons les accusations du ministre Gérald Darmanin qui veut fermer une mosquée en Seine-Saint-Denis et puis la réponse d'une ONG.
Et puis, plus de 2000 patients atteints du Covid-19 sont en réanimation en France ce matin. Le seuil est le même qu'au mois de mai dernier, mais les Français ne semblent pas prendre la mesure du risque. Reportage dans un hôpital près de Saint-Étienne à suivre.
Nous irons ensuite dans le Kent, au sud de Londres, où transitent des routiers sous la menace d'un Brexit sans accord.
Et puis en Tunisie, où un homme a pu changer de nom de famille, il portait l'héritage d'un passé esclavagiste.
Après cette édition, le billet politique de Frédéric Seyss, qui est consacré ce matin à Jean Castex, qui cherche sa place entre les ministres et l'Élysée. Mais d'abord, nous vous proposons ce matin une enquête qui raconte comment le Conseil constitutionnel a manœuvré pour valider les comptes de campagne de Jacques Chirac et d'Édouard Balladur en 1995. Les deux candidats avaient pourtant largement dépassé le plafond des dépenses autorisées et commis de nombreuses irrégularités. C'est ce qui ressort des archives de l'institution qui viennent d'être rendues publiques 25 ans après leur rédaction. Sylvain Tronchet, bonjour.
Bonjour.
C'est vous, avec Élodie Guéguin, pour la cellule investigation de Radio France, qui avait exhumé ces archives. Que raconte-t-elle ?
Eh bien, elle raconte que la bataille terrible que se sont livrés Jacques Chirac et Édouard Balladur en 1995 s'est faite au prix de nombreuses entorses à la loi sur le financement des campagnes électorales. Les deux candidats de la droite ont explosé leur plafond de dépenses de campagne. Ils ont tous les deux bénéficié de versements en liquide de plusieurs millions de francs à la provenance aussi suspecte qu'inexpliquée. Et ils ont tenté, tous les deux, de dissimuler ces infractions en omettant de fournir des dizaines, voire des centaines de factures de frais engagés pendant leur campagne. Sauf qu'ils sont tombés sur des rapporteurs très consciencieux, des hauts fonctionnaires chargés d'examiner leurs comptes qui ont mis au jour de nombreuses irrégularités et les ont déposées sur la table des membres du Conseil constitutionnel présidé par Roland Dumas à l'époque.
Et que s'est-il passé alors ? Pourquoi le Conseil a quand même validé les comptes ?
Eh bien parce qu'il a voulu éviter une crise politique. Cela ressort clairement des comptes rendus des 13 séances d'examen des comptes de campagne qui se sont déroulées entre juillet et octobre 1995. Les conseillers constitutionnels, Roland Dumas en tête, ont tout fait pour sauver le président élu. Ils ont maquillé les comptes, taillé dans les dépenses de Jacques Chirac pour qu'elles repassent sous le plafond. Certains l'expriment clairement lors de séances. On ne va pas rejeter un compte avec les conséquences politiques que l'on sait, dit par exemple Noël Lenoir qui siégeait au Conseil. Les sages étaient plus divisés sur le cas d'Édouard Balladur, mais ils ont quand même validé ses comptes.
Merci Sylvain Tronchet. Votre enquête avec Élodie Guéguin est à retrouver sur franceculture.fr. On y lit le récit de 3 mois de délibération au Conseil constitutionnel, comme si nous y étions. Venons-en à présent, comme promis, à l'enquête. 4 jours désormais après l'assassinat terroriste de l'enseignant Samuel Paty dans les Yvelines, non loin de son collège à Conflans-Sainte-Honorine. Les enquêteurs poursuivent leurs auditions pour tenter d'établir notamment si l'assaillant a bénéficié de complicité pour préparer son geste. 15 personnes sont désormais en garde à vue et de nombreuses questions restent en suspens, Sarah Mansoura.
Comment, en effet, le tueur a-t-il été renseigné avant son passage à l'acte ? Comment a-t-il pris connaissance de la polémique qui secouait le collège du Bois d'Aulne, pourtant à 1 heure de chez lui ? Les enquêteurs cherchent à vérifier s'il a été en contact direct avec les auteurs de la vidéo appelant à la mobilisation contre Samuel Paty en raison de son cours, incluant des caricatures du prophète Mahomet. Les auditions doivent aussi permettre de dire s'il a mis des proches au courant de son projet, s'il a bénéficié de complicité pour acheter son arme ou se déplacer. Les membres de sa famille et le parent d'élève interpellé peuvent apporter des éléments de réponse. Mais parmi les gardés à vue hier soir, il y a aussi 4 élèves du collège précédemment entendus comme témoins. Ils sont au cœur d'une question. Ont-ils désigné leur professeur à l'assaillant ? A-t-il payé des collégiens devant l'établissement pour savoir à quoi ressemblait l'enseignant ? Pour l'heure, chaque collégien s'en dédouane et rejette la responsabilité sur un autre. Une dernière personne peut aiguiller les enquêteurs. Un homme interpellé hier, il affirme spontanément avoir été en contact avec le tueur, quelques semaines seulement avant son geste.
Sarah Mansoura pour l'enquête judiciaire. Parallèlement, l'exécutif prend aussi des décisions plus politiques. Hier soir, le ministre de l'Intérieur a demandé la fermeture de la mosquée de Pantin, en Seine-Saint-Denis. Gérald Darmanin a justifié cette décision sur le plateau du 20h de TF1.
Le lendemain de cet attentat absolument ignoble, nous allons tirer toutes les conséquences d'associations qui ont pu aider à relayer le message, par exemple, ou à justifier cet acte absolument inqualifiable. Et donc j'ai demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire fermer la mosquée de Pantin, puisque son dirigeant a relayé le message qui consistait effectivement à dire que ce professeur devait être intimidé, en relayant d'ailleurs l'adresse du collège. L'imam de cette mosquée a parmi ses enfants déscolarisés dans l'école interdite de la semaine dernière que j'ai fait fermer à Bobigny, où des enfants de 2 à 6 ans portaient le hijab sans cours de récréation, sans fenêtre, sans professeur. Cette mosquée aujourd'hui sera fermée et donc le préfet de Seine-Saint-Denis signe ce soir son interdiction.
Gérald Darmanin qui a donc demandé une fermeture de 6 mois au moins pour cette mosquée. Le ministre vise aussi d'autres structures et associations jugées ambiguës. Il souhaite par exemple dissoudre le CCIF, le collectif contre l'islamophobie, jugé ennemi de la République selon les mots du ministre. Idem pour l'ONG Baraka City. Elle a été fondée dans l'Essonne il y a 10 ans par un groupe de trentenaires musulmans d'inspiration salafiste pour aider des familles en difficulté. Le compte Facebook de cette ONG est aujourd'hui suivi par 700 000 personnes en France. Maître Samim Bolaki est l'avocat de Baraka City. Il estime que le ministre de l'Intérieur se trompe de cible.
Baraka City a fait l'objet d'une enquête extrêmement poussée de la part effectivement du parquet antiterroriste notamment, parce qu'il y avait des éléments sur du financement de terrorisme qui ont été recherchés auprès de cette association. Il y a eu 3 années d'enquête qui ont abouti à un classement sans suite. Monsieur Siamedi, le président de l'association, prend un certain nombre de positions sur Twitter, mais non pas en qualité de président de l'association, mais c'est en qualité de journaliste indépendant et de lanceur d'alerte. Évidemment que l'association, et tout le monde d'ailleurs, condamne l'assassinat de l'enseignant à Conflans-Sainte-Honorine. La question ne se pose absolument pas.
Des propos recueillis pour France Culture par Cécilia Arbona. J'ajoute à la ligne des structures visées encore par l'exécutif, l'Observatoire de la laïcité. Selon les informations du Point hier soir, son rapporteur général Nicolas Cadenne devrait être remplacé. La ministre déléguée en charge des citoyennetés Marlène Schiappa regretterait en fait qu'il lutte davantage contre la stigmatisation des musulmans plutôt que pour la défense générale de la laïcité. Notons enfin que l'hommage national à l'enseignant Samuel Paty aura lieu demain soir à Paris dans la cour de la Sorbonne. D'ici là, ce soir, une marche blanche aura lieu dans les Yvelines à Conflans-Sainte-Honorine. Et puis un recueillement est prévu cet après-midi également à l'Assemblée nationale, juste avant les questions au gouvernement. À l'Assemblée, ce mardi également, débutera l'examen du projet de loi de finances pour la sécurité sociale l'an prochain. 2000 amendements analysés et un retour à l'équilibre compromis pour plusieurs années entre les financements des masques, des tests, des arrêts maladie, mais aussi la nouvelle branche autonomie destinée aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes, sans oublier toujours le financement du Ségur de la santé. Un Ségur pas assez ambitieux, regrettent déjà certains personnels hospitaliers, incompris, disent-ils, par les politiques et par les citoyens. Face à la deuxième vague de Covid-19, les hôpitaux sont rapidement débordés en ce moment. Ce matin d'ailleurs, 2000 personnes sont en réanimation à cause du nouveau coronavirus. La situation est préoccupante, notamment dans la métropole de Saint-Étienne, dans la Loire, à l'hôpital du Gier à Saint-Chamond. C'est un reportage de Julien Gonzalez.
Adeline avait déjà affronté la première vague et elle s'est de nouveau portée volontaire au service Covid depuis fin septembre. Le rythme de cette aide-soignante est extrêmement intense, avec des journées de travail de 12 heures et ce n'est que le début.
On savait qu'il allait y avoir une deuxième vague, mais on ne s'attendait pas aussi rapidement. Ça augmente de jour en jour, très rapidement, trop rapidement. Vendredi, on a fait 8 entrées. C'était assez compliqué physiquement et mentalement. On risque d'avoir du mal à supporter cette deuxième vague si elle est énorme.
Des journées très dures que confirme Catherine, infirmière de l'unité Covid. Ici, les 28 lits sont déjà saturés. Pour elle, c'est clair, les Stéphanois ne sont vraiment pas assez responsables.
La population stéphanoise n'est pas assez vigilante par rapport à tout ça et les gens n'ont pas conscience tant qu'ils n'ont pas de personnes proches qu'ils connaissent, qui sont passées par là. Même nous, en tant que soignants, quand on explique ce qu'on vit en restant dans les enfin avec le secret professionnel, tout ça, les gens ont beaucoup de difficultés à croire ce qu'on leur raconte.
Et face à cette deuxième vague qui monte, 8 nouveaux lits ont été affectés au service Covid ce lundi, qui vont très vite être occupés selon elle. De nombreux patients dans d'autres services sont déjà sur liste d'attente.
Julien Gonzalez de France Bleu, Saint-Étienne-Loire pour France Culture. Saint-Étienne qui fait partie des 8 métropoles, en plus de l'Île-de-France, a imposé un couvre-feu nocturne. Il est globalement bien respecté dans les villes concernées. Près de 3000 amendes ont été dressées depuis samedi pour 6 fois plus de contrôles. Ailleurs en Europe, certains pays optent pour le reconfinement presque total. Les Irlandais devront ainsi rester chez eux dès demain soir et pour 6 semaines. Seules les crèches resteront ouvertes et les écoles également. Ce sera le cas vendredi, couvre-feu également au Pays de Galles.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Un ministre britannique estime que reprendre les négociations post-Brexit avec l'Union européenne n'aurait pas de sens.
Oui, ce ministre est chargé de coordonner l'action gouvernementale au Parlement à Londres et il demande un changement de position de la part de Bruxelles. Le sommet européen de la semaine dernière n'a laissé aucune base pour trouver un accord, dit-il. Un no deal, un non-accord pour le Brexit se profile donc de plus en plus à l'approche du 31 décembre. Et les Britanniques semblent d'ailleurs s'y résigner. Les chauffeurs routiers, par exemple, qu'a rencontré Richard Place dans le Kent au sud de Londres.
Sur ce parking, près de 400 poids lourds se garent chaque jour. Les chauffeurs dorment là, ils peuvent se restaurer et se doucher. Stéphane est bulgare, il remplit ses bouteilles d'eau. Il vient au Royaume-Uni 3 fois par mois. À partir du 1er janvier, il subira des contrôles douaniers.
À cet instant, nous n'avons aucune information. Parce que les Anglais n'en savent rien et parce qu'ils veulent toujours être différents du reste du monde. Ça va être un grand bazar.
Brian n'est pas plus optimiste. Ce chauffeur gallois a bien vu des marquages au sol dans les ports français et quelques maigres indications, mais rien côté britannique.
Ça va être un cauchemar.
Je vais être honnête avec vous, j'ai voté pour quitter l'Europe. Si je pouvais voter à nouveau, je voterais pour rester.
Cette pagaille en perspective inquiète aussi Darren Smith, le directeur de cette aire de repos. D'autant qu'il vient d'investir pour l'agrandir, plus de 27 millions d'euros pour accueillir prochainement 660 poids lourds.
Nous travaillons en lien étroit avec le département des transports. Ils viennent à partir du mois prochain ici. Ils s'installeront pour informer les chauffeurs, leur expliquer comment ça va se passer, les aider pour le Brexit.
Ils notent une augmentation du trafic routier ces dernières semaines. De nombreuses compagnies britanniques font des stocks en prévision du début d'année prochaine et de l'incertitude qui l'entoure.
C'était un reportage de Richard Place. En Tunisie, une famille vient de remporter une victoire historique sur le passé esclavagiste du pays. Hamdan Atik Dali, 81 ans, noir, a réussi à obtenir de la justice qu'il puisse retirer le nom Atik de son nom de famille. Atik signifie « affranchi par »,« libéré par », en référence à la famille à laquelle ses ancêtres étaient asservis, Maureen Mercier.
3 ans pour que Hamdan Dali Atig puisse se débarrasser de ce nom Atig. L'esclavage a été aboli en 1846 en Tunisie, mais plusieurs Noirs en portent encore les traces dans leur nom, particulièrement dans le sud du pays. Hamdan Dali a été débouté 2 fois avant cette victoire. Kaolack Sissi, fondatrice du collectif Femmes Noires en Tunisie, s'en félicite, mais elle se méfie.
Ces personnes sont toujours en situation de précarité et ce sont les séquelles de l'esclavage. Le nom change. Mais la relation hiérarchique est toujours là. Il y a un lien en fait de domination.
Cette victoire a finalement été possible grâce à la loi relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale votée en 2018. Aujourd'hui, avec cette décision, on passe de la théorie au concret. Zied Rouin, de l'association Mnemti, qui lutte contre le racisme et les différentes formes de ségrégation.
Cet jugement, c'est un jugement historique pour aussi encourager la plupart des familles noires pour aller à la justice. Le combat est continué car il y a des cimetières pour le noir, des cimetières pour le blanc. C'est notre prochaine bataille.
Tout reste à faire en Tunisie. Il faut aussi lutter contre les nouvelles formes d'esclavage, ces femmes subsahariennes que de riches Tunisiens enferment et utilisent du matin au soir pour récurer leur maison et s'occuper de leurs enfants. Tout reste à faire, mais la société civile tunisienne est fermement déterminée à faire appliquer cette loi de 2018. Après avoir changé le destin de cette famille de Noirs tunisiens, ils espèrent changer celui aussi des subsahariens.
C'était Maureen Mercier, la correspondante de France Culture à Tunis. Le temps ce mardi sera agité sur la France métropolitaine, avec un vent fort près de l'Atlantique, notamment sur le sud-est ce soir. La pluie balaye le pays sur une grande partie ouest, avec 6 degrés à Besançon ce matin, 12 à Paris et 17 à Bayonne, Guillaume.
Merci Clara Lecoq-Réal, 8h15 sur France Culture. Dans 30 minutes, vous retrouverez mes camarades Hervé Gardette, Géraldine Mosna-Savoie et Arnaud Laporte. Et puis, on va évoquer la laïcité, comment l'apprendre, cette laïcité. Nous sommes en compagnie de Michel Vinocq, historien, écrivain. Il publie « Jours anciens » aux éditions Gallimard et il sera rejoint dans quelques instants par Jean-Paul Delahaye, co-rédacteur du rapport Aubin 2004, co-auteur de la charte laïcité et ancien directeur général de l'enseignement secondaire. Et puis peut-être aussi un billet politique avec vous, Frédéric Seitz, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
De quoi allez-vous nous parler ?
On le dit faible et en chute dans les sondages. Jean Castex est-il fini ? Pas si simple.